Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine sur le podcast, on parle de compte démo, on parle de compte réel. Pourquoi tu passes d'un compte démo où ce que ça fonctionne, puis d'un compte réel où ce que finalement tu le blow up, en compagnie de
Roman,
Corey,
Milo,
Samuel
et moi-même Jean-Philippe.
Donc sur ce, bonne écoute.
Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci et bonne écoute.
Ça paraît que t'es malade parce que j'avais l'impression d'être dans une semi-méditation et en train de dormir.
JP, quel est le sujet?
En fait, c'est un sujet que justement Marie-Lou a amené sur la table, la différence dans un compte démo et un compte réel. Pourquoi que t'exploses ton compte démo, ça va super bien, t'as réalisé des gains, j'ai passé de 100 000 à 116 000, j'ai fait 16% à l'intérieur d'un mois, mais j'arrive sur un compte démo, mais je comprends pas, j'ai passé de 100 000 à 60 000, j'ai perdu 40%
Puis la première étape aussi, c'est tous ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais été sur un compte réel encore. T'as ceux qui passent d'un démo à un réel et qui sont comme « mais qu'est-ce qui se passe pour que ça ne fonctionne pas ?» Et ensuite, t'as ceux qui sont sur un réel, un démo en fait, ça c'est le premier niveau, comme Marie-Lou disait, qui sont sur un démo et qui pensent « ben oui, non, moi ça va, j'ai pas de challenge, tout va bien, j'ai aucun problème, je suis sur mon compte démo et je fais des gros gains. » Et ils pensent que le démo va être ce qu'ils voient dans le réel.
You're making shit.
Pour ceux qui sont là, pour la première fois et qui entendent ce vocabulaire pour la première fois, on va juste vous mettre en contexte que le trading, il y a du risque et vous avez bien évidemment la possibilité d'entraîner vos compétences sur un compte démo, donc argent fictif, mais sur les vrais marchés avec des vrais serveurs et toutes les choses qui se passent pour de vrai. Comme ça, vous faites le maximum d'erreurs possibles dès le départ avant de mettre du vrai argent sur les marchés.
Et moi, j'ai une petite technique, une parenthèse que je mets tout de suite. Moi, je trouve que le meilleur compte démo, c'est de prendre 100 $ que tu n'as pas besoin, le mettre dans un compte réel et trade avec 100 $. Parce que si tu risques 1% par trade, donc par exemple, tu vas perdre maximum 1 $ par trade, tu peux foirer 100 trades. Donc 100 $ te donne 100 trades de pratique. Et je trouve, au début, bien sûr, tu fais avec un compte démo, mais je trouve que le meilleur compte démo, éventuellement, c'est de ne pas rester sur un compte démo. C'est de prendre un 100 $ qui est 100% là pour perdre, comme si tu allais à la foire quelque part, t'amuser avec des petites pièces là. Tu mets 100 $ dans un compte, bien sûr, 100 $ si tu es capable de le perdre. Mais bon, tu mets 100 $ dans ton compte, 100% pour être perdu. Fait que ton compte démo, c'est en fait un compte avec du vrai argent. Ça vient de donner une pratique un peu plus réelle.
Puis avant que vous mettiez 100 $ dans un compte, l'objectif d'un compte démo, juste pour vous le dire, c'est pas nécessairement pour entraîner votre stratégie. C'est juste pour être au courant de comment fonctionne la plateforme. Mm-hmm. C'est la première fois que vous allez l'utiliser. Alors, en termes de lot size, comment est-ce que les pips sont calculés, l'achat, la vente, le stop loss, le TP, juste pour vous familiariser avec la plateforme. Et quand ça c'est fait, OK, go pour le 100 $, pourquoi pas.
Ouais.
Je suis pas mal d'accord.
Sinon, on va perdre 100 $ en 30 secondes. Mauvais lot, boum.
En fait, ça, c'était ma première expérience. Je savais aucunement comment utiliser la plateforme. J'avais mis 200 balles et je dis... Le premier trade que j'ai mis, en espace de 3 secondes, j'ai déjà perdu 25% du compte. Et je dis, ah, OK. Finalement, okay. Je devrais prendre mon temps à me familiariser en premier.
J'avais perdu, je ne savais pas c'était quoi des lots 16. Et j'avais perdu genre...
Mais tu sais toujours pas ce que c'est, non?
J'avais perdu genre 500$ grâce à US 30 en comme quelques secondes. Puis c'est pour ça que j'ai détesté US 30 pendant des années.
Pourquoi tu prends JP en disant c'est sa faute, tu t'as payé?
Non, c'est pas à cause de JP, c'est à cause de moi-même, mais peu importe.
Parce que c'est pas
mais une chose, ouais.
C'est pour ça.
Je veux juste ajouter quelque chose par-dessus qu'est-ce que Roman a dit. C'est ouais, c'est super important un compte démo parce que ça te permet d'avoir une bonne manipulation de l'application. Mais pour moi, je mettrais vraiment deux emphases sur les comptes démo. Pourquoi c'est super important? C'est numéro un. C'est est-ce que tu maîtrises ta stratégie de gestion de risque? Puis je pense que avoir une gestion de risque, c'est différent dépendamment de ta personnalité. OK? So, est-ce que tu as trouvé ta stratégie de gestion de risque, puis est-ce que tu la maîtrises? Numéro 2, est-ce que tu as une bonne psychologie? Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Pourquoi tu devrais juste rester sur un compte démo au début? Te montrer à toi-même que tu es capable de respecter tes propres règles du jeu. Tu es capable de respecter ta psychologie. Et ensuite, sans être un conseiller financier, que ça m'a suggéré, c'est faire de l'argent réel, un petit compte de 100 $. Mais il faut que tu fasses attention. Si tu décides de commencer avec un petit compte de 100 $, tu peux pas, dépendamment des brokers, tu peux pas juste sauter directement sur les indices. SPX 500, Dow Jones, tu vois, les lotes sont totalement différents. Tu vois, alors il faut que tu fasses attention par rapport à ça.
Liquider.
Marie-Lou, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, c'est quoi une stratégie de gestion de risque? Je pense qu'il y en a qui savent pas ce que c'est.
Ben, par exemple.
Je mets tout, et soit ça passe, soit ça casse.
Je mets tout sur le 9 rouge.
Ben, par exemple. Il y a des gens qui prennent des trades où que leurs ratios sont un ratio minimum de 1 sur 3, qui veut dire que tu es prêt à perdre, c'est un exemple en passant, tu es prêt à perdre 1% pour aller chercher un profit de 3%. On va dire que tu as un compte de 100 000, tu es prêt à perdre 1 000 $ pour aller chercher x3, 3 000 $, tu vois. Ça, c'est les genres de ratios que les gens y prennent. Moi, mes ratios, parce que mes gains sont un peu plus élevés qu'auparavant, mes ratios, c'est minimum 1 sur 2, tu vois. Alors,
c'est-à-dire que tu es prêt à perdre minimum 1 000 $ pour aller chercher 2 000 $.
Exactement.
Mais tu n'iras pas risquer 1 000 $ pour aller gagner un autre 1 000 $. C'est ça.
Il y a des gens qui ont leur stratégie de gestion de risque. Ils vont chercher des 1 pour 1, tu vois.
Mm-hmm.
Puis je sais qu'on nous a souvent dit que les ratios de 1 sur 1, c'est vraiment nul, c'est vraiment mauvais. Mais regarde, il y a des gens que je connais ils ont littéralement des win rates de 80-90% d'une manière assez constante, tu vois. Alors,
faut juste que ça soit cohérent.
Exactement. Alors, peu importe c'est quoi ta stratégie de gestion de risque, les ratios, c'est une partie de ta stratégie de gestion de risque.
Ouais,
vas-y.
Je pense qu'à la fin de la journée, en effet, il faut que ça soit proportionnel. Si tu vas avoir un ratio de 2 pour 1, c'est pas nécessairement exceptionnellement magnifique, mais ton taux de réussite doit être vraiment élevé.
Ouais, ouais.
Si par contre, tu es dans tes débuts, tu commences, tu es au niveau intermédiaire, tu
n'es
pas encore dans le 80-90% de taux de réussite, même tu peux être à 30% de taux de réussite. Là, il va falloir balancer de l'autre côté de la médaille le RR. Ça veut dire que ton retour d'investissement doit être beaucoup plus élevé, d'aller chercher du 6 pour 1, 7 pour 1. Donc,
ouais.
Il faut trouver la balance.
Il y a cette partie-là, mais c'est aussi surtout le fait de tenir un plan de trading qui va aider ces personnes-là, parce que la réalité, c'est combien de personnes trade puis qui ne tiennent pas de plan de trading. Puis la réalité, c'est que si tu n'as pas pas de plan de trading, mais un journal de trading, puis la réalité, c'est que si tu ne tiens pas de journal de trading, ben, ça va être très difficile de venir réévaluer tes trades que tu as perdus puis que tu as mangé dans la gueule et de comprendre pourquoi. Puis c'est quoi les patterns que tu es venu répéter à ce moment-là? Parce que des fois, c'est pas nécessairement d'améliorer ce qui fonctionne, qui va bien, c'est d'éliminer qu'est-ce qui va mal et les patterns de merde que tu es en train de répéter. Fait que juste en éliminant, mettons, tous les mauvais patterns que tu prends. Puis en plus, toi, t'as un bon exemple sur... le gars qui était fatigué puis tout. Non, dans la communauté, je me souviens plus c'est qui.
Ah oui.
Mais tu vois, si tu élimines justement les mauvais patterns qui font en sorte que tu as des losses, ben automatiquement, sans pour autant augmenter qu'est-ce qui va bien, ben ce qui va bien va augmenter, soit ton win rate va augmenter à ce moment-là.
J'ai juste ajouté aussi ça, c'est un peu plus
une parenthèse par rapport à ça là.
C'est moi, personnellement. Partout, là.
Moi,
une parenthèse par-ci, par-là, par-là et par-là.
C'était mathématique. Moi,
c'est pas une parenthèse, c'est une histoire.
C'est un épisode à part.
Attends, c'est correct, tu vas avoir un break dans 2 minutes, tu vas devoir se moucher.
Ouais.
Moi, il y a deux choses. Moi, il y a la première chose que j'aime beaucoup faire, c'est premièrement avoir un risk-reward ratio de 1 pour 5 et plus. Parce que je pense vraiment que quand tu as un risk-reward ratio de 1 pour 5 et plus, tu mets toutes les choses de ton côté. Toutes les chances de ton côté. Donc moi, je vais toujours pour mes investissements et mon trading un risk reward ratio de 1 pour 5 et plus, à moins que j'ai vraiment quelque chose de 1 pour 4 qui est exceptionnel. La deuxième chose que je voulais vous dire, guys. OK. La deuxième chose que je voulais dire sur ça, c'est que c'est bien beau avoir cette gestion de risque de 1 pour 5 et tout, mais quelque chose que les gens oublient aussi, c'est vraiment le côté émotionnel. Et je pense que c'est ça qui vient aussi vraiment ne pas aider les gens, comme par exemple sur qui des fois, Marilou, tu as des conversations puis qui disent « Ah, moi, je suis rentable en démo. » Mais démo et real, c'est deux choses différentes. C'est comme dire « Ouais, mais moi, le punching bag, là, je fais des marques dedans. » Ben oui, hein, c'est très facile de frapper un punching bag. Il réplique pas. Ensuite, quand tu rentres sur un ring, puis que la personne, elle esquive, puis elle te frappe aussi, tout d'un coup, tout change. Si vous avez déjà fait des arts martiaux ou des sports de combat, que ce soit de la lutte, du judo, du karaté, de la boxe, du muay thai, peu importe, même en lutte. Tu sais, en lutte, t'es là, t'as un tapis, tu pratiques tes lancers. Tout d'un coup, tu vas dans le cercle et tu commences à te battre. Le gars, il te laisse plus le lancer, là. Finalement, c'est toi qui te fais lancer sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a cette action qui vient que t'avais pas en pratique, en démo, juste quand t'étais en train de lancer le gars ou de frapper dans un punching bag. Et quand t'arrives en pratique, c'est quoi cette chose-là qui se rajoute en réalité? Les émotions. Et les gens ont aucune... Déjà qu'ils ont pas nécessairement de la gestion côté risque, ils ont aucune gestion émotionnelle. T'es pas du tout émotionnel quand tu mets un trade là et que tu te dis que t'es sur un démo. C'est faux là, c'est faux. Et si t'es émotionnel sur un démo, eh ben mon ami, tu as besoin de faire la méditation tous les jours, ok? So t'es pas émotionnel sur un compte démo. Zéro une barre là, rien. Et quand t'arrives sur un compte réel, maintenant tu l'es. Et ça change tout. Ah, et pourquoi mon trading, il fonctionnait bien? Pourquoi il fonctionnait bien? Parce que là, maintenant, tu étais dans un véhicule, c'était pas toi le pilote. Tu étais dans une Ferrari conduite par un professionnel. Là, maintenant, ce professionnel s'enlève et dit, tiens, conduis la Ferrari à 200 km/h. Là, tout d'un coup, tu es comme, oh, c'est pas la même game. Non, c'est pas la même game parce que tu as l'adrénaline. Avant, tu avais de l'adrénaline, mais c'était pas toi, c'était quelqu'un à qui tu faisais confiance. Maintenant, c'est toi qui dois gérer cette adrénaline-là.
Je pense ça, c'était une super de grosse parenthèse en passant.
J'ai pas fini ma parenthèse. Ensuite,
attends, mais juste. Mais
je fais une parenthèse dans la parenthèse.
Ouais, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Ok. Je pense que. C'est pour ça, c'est vraiment nice avoir un journal de trading. Tu vois, une des choses que moi je faisais, c'est des fois quand j'avais des mauvaises journées, j'avais besoin d'un peu de dopamine. Ça, j'ouvrais mon MT4, puis je perdais, tu vois. Mais
yo, ça, c'est de la foutue, mais en bonne dopamine.
All right.
J'avais besoin de dopamine, j'ouvre mon MT4, ouais. Je place un trade, blow up.
C'est ça.
Nice. Satisfaction.
Mais ça m'a aidé vraiment comme, admettons,
ça t'a aidé, hein?
Avoir un journal de trade. Ça m'a...
Pour toi, à nous.
OK. Ça m'a vraiment aidé à être conscient de ça. Tu vois, parce qu'il y a des gens comme ça, là, quelque chose de vraiment stupide, mais il y a plein de gens qui ne sont pas conscients que, comme, dans certains cas, ils ont besoin de dopamine, soit ils vont faire des choses qu'ils sont pas supposés faire.
Ouais. Puis le marché vient trigger tes émotions comme un casino.
Ouais.
Vous n'avez pas réalisé que tu rentres dans le casino, tu as des lumières, ping, 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 tu as des trucs rouges, verts, ping, ping. Tu rentres sur le marché, tu ouvres ton broker, tu as quoi? Tu as un prix qui bouge tout le temps, tu as des chandelles rouges, vertes, tu as des alertes, tu as des positions, ting, tout. C'est littéralement psychologiquement fait pour te faire prendre action de façon psychologiquement émotionnelle. Parce qu'un broker fait de l'argent quand tu trades, peu importe que tu gagnes ou tu perds.
Tu sais, comme quand j'ai des appels privés avec des gens, vous savez, certains d'entre vous, je fais mes jeux des dessins. OK?
Ouais, ouais, ouais.
Oui,
puis, minimum, là, je n'exagère pas, minimum 90% d'entre eux sont même pas capables de me dire si c'est aussi ou baissé le marché, avec mes dessins. Puis là, après, je leur dis, si t'es pas capable de dire si le marché est aussi ou baissé, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec le graphe où il y a des mèches, des chandelles de toutes sortes de grandeurs, une mèche après, à côté d'une autre mèche, après une autre mèche, puis une autre mèche, un à côté de l'autre, tu vois?
Est-ce que tu dirais que c'est les gens qui sont mauvais ou c'est tes dessins?
Mais je pense que c'est important. Comment je sais que tu as une bonne psychologie, OK? C'est quand ça ne te fait plus rien à l'intérieur de toi, quand tu perds ou tu gagnes. Mm. Tu n'es plus attaché au résultat, que ce soit positif ou négatif.
100%.
Tu es seulement attaché à devenir, un meilleur... comment dire, un meilleur trader avec les connaissances. C'est comme aiguiser un épée.
Un meilleur dresseur. Un meilleur dresseur.
Un meilleur quoi?
Non, c'est une private joke. Personne rigole à ma blague de Pokémon du meilleur dresseur.
Oh! Ah! Je ne sais même plus. C'est quoi en anglais? Je suis meilleur en anglais.
Let's not worry.
Peu importe. Mais ouais, c'est basically juste aiguiser tes skills. Je pense que c'est ça la partie la plus importante.
Mais comme vous deux, vous avez dit, le journal de trading, c'est la clé. Parce que ce que tu veux prendre, c'est pas plus de trades, c'est moins de mauvais trades. Et ça, je le répète tout le temps. Les gens, ils sont comme moi, on dirait, ils ont cette idée que, OK, pour faire plus de gains ou être meilleur, je vais prendre plus de trades. Mais c'est faux, parce que plus de trades veut dire plus de temps sur le marché. Plus de temps veut dire plus de risques. C'est comme si tu dirais, pour gagner la guerre, je dois laisser mon armée le plus longtemps sur le champ de bataille. Au contraire, tu veux qu'ils viennent, pam, pam. Tu veux gagner cette bataille le plus longtemps, le plus rapidement possible. Plus tu es longtemps sur le champ de bataille, plus tu peux avoir des hommes qui ont des pères, qui se blessent, qui ci, qui ça. So, au contraire, au lieu de te concentrer à mettre plus de trades, regarde ton journal de trading. Après avoir fait 100, 200, 300 trades, tu vas être capable d'identifier c'est quoi, pas les mauvais trades, les pires là. C'est quoi le point en commun entre les pires trades et ne fais plus ça. Fais juste les couper. Et imagine maintenant, tu as pris 20 trades, puis tu étais 5 trades de bon sur 10. Maintenant, tu coupes ça et tu as pris seulement 10 trades et tu es 4 trades de bon sur 10 au lieu de 5 sur 20. Tu viens d'exploser tes ratios juste parce que tu t'es concentré à enlever le mauvais en premier.
Ouais, juste ajouter quelque chose par-dessus. Je raconte tellement de gens qui, admettons, des fois ils risquent 5%, puis d'autres fois ils risquent 3%.
Oh shit.
Ou d'autres fois ils risquent 1%, puis d'autres fois ils risquent 0,5%. Puis quand je leur pose la question, pourquoi des fois tu risques 5% puis des fois tu risques 3%, ça revient toujours à mais ça dépend comment je me sens, OK? Puis tu te sens pourquoi comme ça? Mais ça dépend comment je suis confiant. Alors si t'es pas confiant,
le trade, ne prends pas le trade.
Prends-le pas alors, ton trade, tu vois? Puis je pense que quand t'es nouveau, c'est important. En tout cas, ça c'est une opinion personnelle, OK? Je pense que dans ta stratégie de gestion des risques, que tu gardes le même risque, peu importe c'est quoi le risque, tu gardes le même risque parce que ça va t'aider à avoir des données stables pour pouvoir apprendre à connaître sur toi-même.
Bon point. Marie-Lou, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Très rapidement, c'est ça. C'est que... quand on commence le trading, on apprend, on comprend les concepts. On va sur un compte démo et puis au bout de 3, 4, 5 mois, on a l'impression de comprendre. C'est ça la revers de la médaille qui est compliqué. C'est qu'on a l'impression de savoir, on a la sensation de savoir parce qu'on prend les trades sur les comptes démo, on voit des résultats. Donc, on est super confiant dans ce qu'on sait et on a beaucoup du mal à continuer à s'ouvrir, à continuer à se former parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bout. Mais c'est un peu comme si... Moi, ma question, c'est est-ce que vous laisseriez vos enfants dans la voiture de quelqu'un qui vient juste de passer son permis de conduire? Ça fait 20 heures qu'il a conduit et puis tu dis OK, je mets les trois enfants à l'arrière puis je te laisse faire 1000 km avec. Je pense pas, mais il sait conduire
un petit peu. Sur la banquette arrière.
C'est ça, il sait que la personne sait conduire. Mais elle est pas prête, pour les embûches, elle est pas prête pour les problématiques. Ouais. Donc c'est ça. Et moi j'ai toujours
Tu prends quelqu'un du sud de la France puis tu le mets en janvier au nord du Québec, vas-y conduis dans la neige.
Oui. Putain,
ouais, c'est ça.
Permis, mais là, vas-y.
Ce qui est important de dire, je prends souvent cette métaphore-là. Pour moi, quand on veut devenir trader, c'est un peu le même principe que la médecine. Quelqu'un qui est médecin dans les années 90-2000 ne va pas être le même médecin en 2024. Pourquoi les médecins continuent à aller dans des conférences pour apprendre les nouvelles techniques de chirurgie, les nouveaux médicaments qui sont sortis, les nouvelles manières de diagnostiquer quelqu'un? Le trading, c'est pareil, c'est une formation continue, même si on sait, même ça fait 5 ans qu'on en fait, même ça fait 10 ans qu'on en fait, il faut continuer à se mettre à la page, sinon le marché va nous avoir. Donc imaginez-vous, si vous savez 3, 4, 6 mois que j'entends des plusieurs personnes qui me disent ça fait 6 mois déjà que je m'intéresse au trading, ça fait 6 mois que je travaille, ok, mais t'as pas d'historique là, t'es encore dans ta voiture, ça fait que tu viens d'avoir ton permis de conduire à l'instant.
T'as même pas appuyé sur l'accélérateur.
Exactement, donc il y a...
À 6 mois, tu t'étais encore là.
Il y en a qui peuvent vraiment sortir des super belles performances, mais souvent, c'est les personnes ont un travail, ont une famille. Ça fait 5-6 mois qu'ils sont dans le trading. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait, ouais, tu peux te donner 5-6 heures par semaine ou 8 heures par semaine dans ton étude. C'est pas comme si quelqu'un... Oui, il y a des personnes qui arrivent à être rentables au bout de 3 mois, mais c'est des personnes qui mettent des heures et des heures et des heures toutes les semaines et qui font leur priorité le trading leur priorité. Donc, moi, ce que je veux vraiment rappeler, c'est qu'au bout de 6 mois, on a encore des bébés sur les marchés. Et même si on est rentable en démo, même si on arrive à faire 2, 3, 4 trades qui fonctionnent bien, la rentabilité, ça s'évalue sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et être capable d'avoir une analyse retour sur c'est quoi mes performances des derniers mois et des dernières années. Voilà ce qu'on appelle un trader rentable. Vous n'êtes pas rentable si ça fait 6 mois que vous êtes rentable en démo. C'est le message que je voulais vraiment dire.
Je dirais même plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs saisons, plusieurs élections, tu sais, vraiment plusieurs ça. Puis il y a juste un point qui est venu me chercher, c'est quand tu as dit que certaines personnes vont passer des 5-6 mois sur des comptes démo puis pensent qu'ils ont l'affaire. Déjà, à la base, si tu écoutes ce podcast et que ça fait des mois que tu es sur un compte démo, décalise de ton nasty compte démo, man. C'est pas comme tu sais, toi tu l'as expliqué, c'est fait pour te familiariser avec l'application. Puis comme ça, m'a dit, tu commences avec un 100$ parce que ce soit 100$, 50 balles, 200 balles, 500 balles, tu vas devenir émotionnel d'une façon ou d'une autre. Puis si tu veux vraiment réussir, il faut que tu aies une adaptation émotionnelle. Puis je le dis tout le temps, éduque-toi, backtest, compte démo, puis commence avec de l'argent réel avant de. Un minimum avant de commencer à augmenter ton compte parce que tu dois t'adapter sur le plan émotionnel et non sur le plan... T'sais, rester des mois dans un compte démo, c'est juste t'es en mode paranalyse. T'as peur de te lancer, mais tes résultats en ce moment, ils sont bons, mais t'as juste peur de te lancer puis de risquer de la vraie argent. Ben, t'es purement émotionnel.
Puis je rappelle que la capacité, souvent on dit oui, le trading c'est compliqué, il faut que je m'entraîne sur une stratégie, des indicateurs, etc. Mais aujourd'hui, la capacité de compréhension du trading, c'est à peu près équivalent à l'âge de 10, 12 ans à peu près à l'éducation. En France, on dit le CM1, CM2. Au Québec, je ne sais pas en quelle classe on est quand on a 10 ans ou 12 ans. Mais c'est à peu près quand on a 12 ans, on a les capacités, on a les compétences pour comprendre le trading. Donc imaginez que le 3/4 du travail, c'est la psychologie et les émotions. Tout le monde est capable d'apprendre une stratégie de trading. Tout le monde est capable de comprendre un graphique en 2-3 mois de temps là. Pourquoi la plupart des personnes perdent de l'argent, c'est pour votre psychologie.
Ouais. Puis j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que, en gros, là, les gens devraient se dire, tant que ça fait pas minimum 4-5 ans qu'ils sont dans le trading de façon constante, c'est pas genre, oh, j'ai mis une heure par à gauche, une heure à droite. Ça compte pas non plus, là. Si tu avais 2 ans que tu mets 30 minutes par jour,
c'est de la merde.
C'est rien, là. Ça aussi, c'est un truc à pas oublier. Ah, moi, je mets 2 heures par jour depuis 3 ans. Ouais, exact. Tu mets 2 heures par jour depuis 3 ans, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que un cycle en général, avec une correction et tout ça, que ça soit des stocks ou crypto, c'est environ 4-5 ans. Donc, n'importe qui écoute cet épisode et que vous pensez, ah, moi, ça fait 6 mois, un an, aussi ou ça, ben, je vais juste te laisser savoir que tant que ça fait pas minimum 4-5 ans, t'as même pas fini un cycle complet.
Exact.
T'as potentiellement même pas vu un bull run ou une correction. En fait, il y a de fortes chances que t'as jamais vu soit un bull run, soit un bear run, une correction, que ça soit des stocks, que ça soit la crypto. Si ça fait moins de 4-5 ans, t'as jamais vu un cycle complet de ta vie. Donc t'es en train de dire, oh oui, je sais ce qui se passe, mais t'as jamais vu un cycle. C'est comme si je dirais, ouais, je connais le parc, mais t'es juste allé faire une marche comme sur le premier côté. T'es pas rentré dans le parc, tu t'es pas promené. Non, tu le connais pas. T'as vu littéralement 1 sur 5. So, dites-vous, si ça fait moins de 4-5 ans, t'es au primaire. T'as même pas fini un cycle complet. Même des gens comme moi, Roman et tout, que ça fait 8 ans, bientôt 9, on en a même pas encore à peine vu 2. C'est genre le secondaire. Fait que, rappelez-vous de ça et soyez coachable.
D'ailleurs, si vous êtes coachable, du 10 au 12 mai. Immersion
yes.
à Nantes. Vous c'est devez absolument devenir présent. Plus de 36 heures de formation intensive sur 3 jours.
En personne.
En personne.
On va tirer avec des guns à eau, là, des pistolets à eau.
Oh. Tu viens de lui donner une idée.
Yo,
non, mais venez apprendre. On va parler de trading, on va parler d'investissement, de finances, de diversification de revenus, de mindset et de développement personnel. Vous voulez pas manquer ça.
Et okay? On va faire...
Hey. Hey.